Bonjour Frédéric.
Bonjour Marie.
Alors, dans un article publié en 2016 dans la revue The Lancet, des auteurs discutent du VIH, de l'hépatite B, de la tuberculose en milieu carcéral. Et ils parlent d'un perfect storm, d'un orage parfait en préparation. Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire ?
Oui, cette expression, elle traduit à la fois une réalité épidémiologique, mais aussi un regard sanitaire porté sur la prison. En fait, d'un point de vue épidémiologique, la prison rassemble une population particulièrement vulnérable. En général, cette population carcérale, elle est issue majoritairement de milieux défavorisés, donc de quartiers où les individus sont peu touchés par les actions de prévention ou n'ont pas beaucoup accès à l'offre de soins. C'est le cas, par exemple, du quartier de Kumasi-Campement, dont tu vois une photo ici. Bien souvent, pour des populations issues de ces quartiers, l'expérience de la prison constitue une expérience de précarité et d'exclusion qui renouvelle une expérience de précarité et d'exclusion déjà vécue à l'extérieur de la prison. Et d'ailleurs, ça se traduit par des données épidémiologiques qui parlent d'eux-mêmes. Regarde ces chiffres. Ils concernent les taux de séroprévalence du VIH en milieu ouvert et en milieu fermé dans le même pays. Trois exemples. La Tanzanie, en 2012, le taux de séroprévalence en prison est de 6,7%, alors qu'en milieu ouvert, d'après l'OMS, il est en 2016 de 4,7%. Le Burkina Faso, en 2009, en prison, le taux de séroprévalence est de 5%, alors qu'il est en milieu ouvert, d'après l'OMS, de 0,8%. Le Togo, enfin, en 2013, les taux de séroprévalence sont de 4,6% en milieu fermé, alors qu'en milieu ouvert, ils sont de 2,4%. Et à cette distinction entre milieu ouvert et milieu fermé s'ajoutent d'autres inégalités, notamment les inégalités hommes-femmes. Par exemple, on sait que si les femmes sont moins enfermées que les hommes en prison, elles sont par contre beaucoup plus infectées que les hommes. Un exemple, à l'échelle du continent, on estime que la prévalence du VIH chez les femmes incarcérées est environ du double de celle des hommes, soit, d'après l'OMS, 13,1% pour les femmes, quand les hommes, en moyenne, sont exposés et ont un taux de séroprévalence de 7,1%. Alors, cette vulnérabilité et l'exposition au risque des détenus, elle varie bien sûr selon les pays, selon les genres, mais néanmoins, une récente revue mondiale publiée par l'OMS sur la santé en prison rappelle que globalement, les taux de séroprévalence sont toujours plus importants chez les détenus qu'en population générale. En outre, la même revue de littérature souligne le fait que si les détenus entrent en prison avec l'infection, le problème c'est que même s'ils n'étaient pas infectés en entrant, les pratiques qui ont lieu à l'intérieur les exposent aussi à des infections.
Et c'est quoi ces pratiques ?
Alors ces pratiques, on peut retenir parmi elles, par exemple, l'injection de drogue, l'usage des seringues dans le cadre de la consommation de drogue. Même si cette pratique n'est pas encore complètement répandue dans les prisons africaines, elle a tendance de plus en plus à être prévalente et donc elle est à suivre. Les rapports sexuels, qui sont d'autant plus importants que dans des contextes de ressources limitées, la sexualité est un moyen d'accéder à une ressource et à un soutien et que cette sexualité, elle ne fait pas l'objet de pratiques de prévention, notamment par la distribution de préservatifs, puisque dans les prisons africaines, on ne reconnaît pas l'homosexualité. Enfin, d'autres pratiques telles que le tatouage, l'usage commun de l'âme, peuvent également favoriser à la fois le VIH, mais aussi l'hépatite C.
D'accord, donc d'un point de vue de santé publique, la prison, elle constitue un lieu vraiment stratégique.
Oui, oui, et pour au moins deux raisons. Mm-hmm. D'abord, c'est un lieu d'opportunité pour les soins, pour des populations qui, on l'a vu, sont le plus souvent précaires et en marge du système de santé. On parle alors de la prison comme d'une parenthèse thérapeutique. D'ailleurs, cette question est aussi vraie pour les prisons en Europe, et je te renvoie par exemple au livre de Gilles Chantraine, Par-delà les murs, qui raconte très bien comment un détenu va soigner ses dents en entrant en prison, puis retourne dehors, et puis revient plus tard, quelques temps après, et se refait prendre en charge. Enfin, c'est également un lieu de risque d'infection des détenus, de production d'épidémies, qui peuvent ensuite se répandre en population générale.
Et comment ça ?
Eh bien, pour donner un exemple dans un pays non africain, Paul Farmer, dans son ouvrage « Pathologies of Power », rappelle comment, en Russie, le système carcéral russe favorise le développement d'une épidémie de tuberculose multirésistante. Pour deux raisons. D'abord, le système de justice fonctionne mal, ce qui fait que les détenus vont être en préventif très longtemps. Et quand ils sont en préventif très longtemps, ils sont dans des conditions d'incarcération qui sont très mauvaises. Et notamment, ils sont exposés, à cause de la surpopulation, à la tuberculose. On va les mettre sous traitement, la prise de traitement n'est pas régulière, ils développent des résistances, ils finissent ensuite par sortir de prison, et quand ils sortent, eh bien finalement, ils vont ressortir avec un virus virus de tuberculose qui va devenir résistant à la première ligne d'antibiotiques, ça reste diffusé en population générale, alors que les antibiotiques pour la tuberculose multirésistante ne sont pas disponibles dans le système de santé général.
D'accord, donc en fait, la prison, c'est un enjeu de santé important à l'échelle nationale et finalement à l'échelle internationale aussi.
Oui, donc on voit bien qu'il y a un enjeu simplement d'améliorer la qualité des soins. Mais penser qualité des soins, c'est pas simplement faire de la santé, c'est aussi prendre acte de la déclaration de Ouagadougou qui a été publiée à l'issue de la conférence du même nom qui avait eu lieu en 2002 à Ouagadougou en Afrique. Dans cette déclaration de Ouagadougou, on rappelle l'engagement des États africains qui participaient à cette conférence, hein, il y en avait plus de 33. On rappelle l'engagement de ces pays à promouvoir le respect du droit des détenus dans le système carcéral et à améliorer leurs conditions de détention. Alors parler de respecter le droit des détenus, c'est pas simplement parler de droit à la santé, c'est d'articuler le droit à la santé avec le droit à la justice. Les droits à la santé font partie, comme le droit à la justice, des droits promus par la déclaration de Ouagadougou.
D'accord, alors il y a eu la déclaration de Ouagadougou, il y a eu aussi les règles Mandela. Et finalement, est-ce que ça a changé quelque chose ?
Oui, alors bien sûr, il y a eu une pléthore de déclarations, d'engagements politiques, et malgré tout, la réalisation des droits à la santé, elle est rendue difficile par au moins 6 points. Je te propose de les lister. Mm-hmm. Le premier, c'est le manque de légitimité des détenus dans la société globale. Aussi, prendre soin des détenus dans une prison, aussi bien pour la population générale que pour les politiques, c'est vraiment pas une priorité, et on considère assez facilement qu'il y a en population extérieure, en milieu ouvert, des enjeux à prendre en charge avant de s'occuper de ceux qui sont punis en prison. Deuxième point, c'est la contrainte exercée par le contexte carcéral qui rend aussi difficile l'accès aux soins et la production du soin, et notamment le recours aussi aux ressources sanitaires en dehors de la prison. Troisième point, c'est la question de la surpopulation carcérale. Évidemment, c'est difficile. Si on reprend l'exemple de la Maca, juin 2018, 7000 détenus, alors qu'il y a 1500 places dans la prison. On imagine bien que c'est compliqué. Quatrième point, les conditions d'hygiène qui sont sommaires. Manque d'accès à l'eau dans la prison, absence de toilettes dans les cellules. Cinquième point, c'est les dynamiques de pouvoir et les violences, dont les violences sexuelles qui agissent en interne dans la prison, aussi bien entre les détenus qu'entre les gardes et les détenus, et qui complique évidemment la production équitable et homogène des soins dans la prison. Enfin, le sixième point, c'est le fait que la mise en place d'un programme sanitaire en prison suppose à chaque fois de prendre en compte non seulement la population des détenus, mais aussi la population des gardiens qui viennent des mêmes quartiers, qui ont les mêmes caractéristiques socio-économiques et qui souffrent aussi du stigmate de la prison. Et donc, on ne peut pas faire quelque chose pour l'un des groupes sans le faire pour l'autre.
D'accord. En fait, donc, tout l'intérêt est de comprendre le fonctionnement de la prison pour mieux cerner les questions de santé qui s'y inscrivent.
Oui, absolument. Il est important de penser la santé non pas seulement à partir des données épidémiologiques, comme on vient de le rappeler, mais aussi de penser la santé comme un objet légitime pour les sciences sociales et qu'on doit penser aussi dans le cadre des enjeux de pouvoir et de la politique de la prison, si tu veux. Mmh. Alors, dans cette perspective, on perçoit bien comment la santé fait l'objet de définitions, de pratiques qui dépendent en fait des relations de pouvoir en interne dans la prison, des relations de pouvoir qui sont caractéristiques de la vie carcérale. Alors, il y a la question de l'accès à l'infirmerie, qui n'est pas pour les détenus simplement une question sanitaire, mais qui est aussi un moyen d'accéder à une des ressources, à aller faire du trafic dans ce bâtiment ou à sortir dans la cour pour prendre l'air, pour acheter des biens et des services. L'infirmerie apparaît non plus donc comme un lieu de soins, mais comme un lieu d'échange, de circulation, de trafic. Concernant la reconnaissance aussi des enjeux sanitaires, on doit aussi observer également une forme de hiérarchisation de ce qui est légitime comme enjeu sanitaire et de ce qui l'est moins.
D'accord, mais qu'est-ce que tu veux dire ?
Eh bien, par exemple, des maladies infectieuses, qui sont certes, bien, tout le monde en convient, un problème sérieux qui menace les détenus, les sociétés dans lesquelles s'inscrivent les prisons et plus largement le monde. Mais lorsqu'on parle avec des détenus ou avec des professionnels de santé qui interviennent en prison, rapidement, on découvre qu'eux, ils mettent en avant d'autres problèmes de détention qui ne font pourtant pas l'objet de priorités dans les programmes internationaux sanitaires. Je te propose à ce propos d'écouter le docteur Traoré. Il est directeur de la santé et de l'action sociale auprès du ministère de la Justice du Burkina Faso. On l'écoute.
Sur le plan épidémiologique, les pathologies les plus rencontrées au niveau des maisons d'arrêt, des prisons, je veux parler des top 5. Il y a en premier lieu le paludisme simple, le paludisme grave qui sévit. Ensuite, il y a les affections respiratoires, y compris à tuberculose, les infections respiratoires hautes et basses, y compris la tuberculose. On a eu récemment 27 cas de tuberculose, une épidémie de tuberculose dans la prison de Bourg-Bessau. Il y a également les affections de la peau. Quand je parle d'affections de la peau, il s'agit ici le plus souvent en période chaude, au mois d'avril.
Alors, au-delà des problèmes soulignés par le docteur Taroé, par ces pathologies un peu ignorées ou orphelines, on doit aussi ajouter, par exemple, les problèmes d'addiction, qui sont rarement pris en compte, alors même que la drogue circule en prison. Également les problèmes psychiatriques, qui sont un autre parent pauvre de la santé en prison. Au mieux, les détenus, d'ailleurs, qui présentent un danger, qui ont un problème psychiatrique, mais qui présentent un danger pour leur code détenu, au mieux, on va les mettre dans un blindé et ils vont être enfermés ad vitam aeternam, le temps de leur incarcération, dans des blindés. Les consultations psychiatriques, en fait, sont extrêmement rares et pas du tout systématiques en prison. Par exemple, pour reparler de la Côte d'Ivoire et de la MACA, donc 7000 détenus en 2018, un seul infirmier psychiatrique pour l'ensemble des détenus. Ces pathologies, donc, que ce soit les addictions ou les problèmes psychiatriques, font peu l'objet de financement des bailleurs ou des États. Et le fait que ces pathologies ne représentent pas un problème en termes d'épidémie n'est pas un hasard, en fait. On peut imaginer que si les problèmes psychiatriques étaient transmissibles par le crachat, tout le monde s'en occuperait pour lutter contre ces risques de contagion.
D'accord. Mais finalement, les soignants, ils font quoi face à tout ce que tu décris ?
Alors, tu as raison de parler des soignants. On pourrait parler d'une forme de solitude des soignants en prison, qui sont souvent l'unique recours des détenus qui n'ont pas d'autre moyen que de se confier à eux et qui souvent n'ont pas les moyens de payer les médicaments à l'extérieur. Écoute ce que dit à ce propos le docteur Angora. Il est médecin de détention à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan.
On est obligé, médecin en prison, de pouvoir prendre en charge toutes les pathologies possibles. On est les derniers recours. En prison, le prisonnier ne voit que nous, étant dernier recours. Et les pathologies qu'il présente sont multiformes.
Et ces différentes façons de penser et de pratiquer la santé en prison, elles coexistent ?
Oui, tout à fait. En fait, ça suppose de toujours penser la santé en prison en fonction d'un contexte d'interaction. Selon qui on est, selon d'où on parle, tu sais, c'est ce qu'on appelle en sciences sociales le contexte d'interaction, le contexte d'énonciation, c'est-à-dire le lieu à partir duquel un individu produit un discours et qui permet de saisir l'intentionnalité de son discours. Et bien, selon le contexte d'énonciation, le sens que l'on donne à la santé, les usages que l'on fait de la notion vont être différents. Et il ne s'agit pas de dire qu'il y en a un qui dit la vérité et l'autre non, mais simplement dans une démarche visant à comprendre la logique des fonctionnements, de saisir le sens profond des actions et des manières de penser et d'agir des individus. On peut ainsi penser la santé dans le cadre d'une économie de la valeur, une économie de la valeur qui consisterait à reconnaître le sens et l'usage d'une notion comme la santé, et de reconnaître que cette notion, elle n'est pas donnée comme telle, elle est toujours négociée, traduite, elle fait l'objet d'une transaction. Penser à la santé en prison, en fait, c'est interroger la légitimité ou l'illégitimité de tel ou tel détenu comme récipiendaire du soin et dans un contexte de ressources limitées où l'offre n'est pas satisfaisante pour la population générale. Je te propose à ce propos d'écouter à nouveau le docteur Angora.
J'étais en fonction à ADK et puis je demande à venir à Abidjan pour faire une spécialité. Généraliste que je suis, je veux faire une spécialité, je veux faire de l'hémato. Et je demande, je n'arrive pas à avoir gain de cause. Et j'insiste, et puis un matin, on me dit que je suis affecté à la MACA. J'informe mon aîné, qu'est-ce qu'il trouve à me dire ? Il dit, ça ne va pas. Avec tous les centres de santé qui sont sur Abidjan, c'est la MACA côté même, dans une prison. Bon, je vais m'essayer. Parce que si c'est des hommes qui sont là-bas, c'est que je peux, j'ai de quoi faire. Alors, je viens m'essayer.
Il faut comprendre la pluralité des significations et des logiques d'engagement des acteurs dans le domaine de la santé en prison. Des logiques épidémiologiques, de contrôle de la contagion, aux usages locaux de la santé comme ressource.
En effet, la réalisation des soins en milieu carcéral repose sur un équilibre précaire entre ces différents paramètres.